Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on est ravis d'être là avec vous. Et puis alors, quel monde. Ça nous met un peu la pression. Donc, eh bien, écoutez, on est parti pour une séance qui va durer une petite heure. Et j'ai l'immense, vraiment l'immense plaisir de vous présenter les invités de cette table ronde qui vont nous parler de l'intelligence terrestre non humaine. Alors, je vais commencer par les auteurs à ma droite. Donc, vous avez Sylvie Lenné et Jana de Batz, qui sont deux auteurs extraordinaires. Si vous ne les connaissez pas, vraiment, filez à la librairie et à ActuSF et achetez leurs livres. Voilà. Alors, elles sont terribles. Sylvie Lenné vient de sortir un ouvrage qui s'intitule L'Opéra de Chaya, où vous avez une grande novella et quelques petites nouvelles. Sylvie est un auteur beaucoup trop rare à mon goût, qui devrait écrire plus, qui nous emmène toujours dans des univers extrêmement différents et qui a une imagination débordante et que je vais sans doute brancher sur l'une de ses nouvelles qui a été parmi les plus primées de toutes, qui s'intitule Les yeux d'Elsa. Les yeux d'Elsa, qui a eu à la fois un grand prix d'imaginaire, le prix du lundi, le prix Rogny-Aîné, c'est-à-dire qu'elle a été... elle a généré un enthousiasme énorme à la fois chez les professionnels et dans le public. Sa sœur de prix, c'est Jana de Batz, parce que pour un ouvrage, une novella un petit peu ancienne, elle date de quand ?
2008.
De 2008, pas si vieille que ça. La vieille anglaise et le continent, Jana de Batz a eu exactement les mêmes prix, donc vraiment sœur de prix. Prix lundi, prix Rogny.
On est des auteurs hors de prix.
Prix Rogny-Aîné, Grand Prix d'Imaginaire. Et puis, elles ont toutes les deux une palette assez impressionnante. Et Jana de Batz vient de sortir récemment deux ouvrages. Un ouvrage qui met en scène toutes les deux, ces deux ouvrages mettent en scène des adolescents. Simplement, attention, il y en a un qui est pour les jeunes adultes et un qui est pour les adultes avertis.
Très avertis, hein. Attention.
L'Héritière et Pixel Noir. Et puis, à ma gauche... J'ai dans ce panel l'immense plaisir d'avoir avec moi Frédéric Landregin et Pascal Kuntz. Pascal Kuntz est professeur d'université à l'École polytechnique de Nantes et c'est une spécialiste de la fouille des données, de la classification des systèmes informatiques. Et elle est également éditrice de la revue d'intelligence artificielle RIA pour les spécialistes. Et puis... À ses côtés, on a Frédéric Landregin qui est chercheur à l'ENS Montrouge et qui est spécialiste du dialogue entre l'homme-machine, je dirais, et qui vient de sortir un ouvrage en 2013, Dialogue homme-machine, justement. autant faire simple. Conception et enjeu. Donc avec des intervenants d'une telle qualité, je n'imagine pas que ça ne soit pas passionnant. Alors, je vais commencer par une première question. On va prendre les choses du point de vue de la science-fiction. Souvent, on part de la science pour aller vers la science-fiction. J'ai envie aujourd'hui de nous emmener dans la direction inverse. Et donc, pour commencer, j'aimerais bien demander à Sylvie Lenné dans quelle mesure les yeux d'Elsa mettent en œuvre une intelligence terrestre non humaine et qu'est-ce que tu as voulu faire avec cette nouvelle ?
Alors, ce que j'ai voulu faire, c'était parler des interactions humaines et des difficultés qu'on a à comprendre comment pense l'autre et quelle représentation il a du monde. Et la meilleure manière d'en parler, à mon avis, ça a été de prendre justement un point de départ avec une intelligence qui était à la base différente. Alors, il se trouve qu'en l'occurrence, la rencontre se fait dans mon histoire entre un humain et un dauphin. Mais il y a tout un tas de choses qui se sont passées avant pour permettre cette rencontre et la rendre possible. Parce qu'on n'a pas une vraie communication avec les dauphins dans l'état actuel des choses. Donc pendant des générations, on a amélioré génétiquement les dauphins pour qu'ils puissent devenir des collaborateurs, qu'ils puissent travailler à la construction de villes sous-marines. Ils ont des mains un peu plus efficaces que leurs nageoires d'origine. On a transformé leur bec de manière à ce qu'ils puissent articuler et converser. Et de génération en génération, on améliore le dauphin pour qu'il soit un partenaire de plus en plus efficace. Et le protagoniste dans mon histoire est quand même à la fois génétiquement amélioré et équipé d'une IA, d'une intelligence artificielle qui développe aussi ses facultés cognitives et sa manière de penser. Mais à la base, sa manière de penser n'est pas tout à fait la même. Et c'est ça qui m'intéressait de mettre en scène, c'est que c'est la réaction de l'humain face à quelqu'un qu'il va a priori considérer comme fondamentalement différent parce que c'est un animal à la base, et toutes les difficultés qu'il aura à prendre conscience de la forme d'intelligence qu'il a en face. Parce qu'il aura plein de présupposés sur ce qu'est la créature en face de lui, qui n'est qu'un animal. Objectivement, c'est vrai, c'est un animal. Mais même si on ne suit pas la pensée de Elsa, qui est la dauphine dans mon histoire, on comprend très bien, je pense, en creux, jusqu'à quel point elle va dans son analyse de la situation de collaboration qui est fondamentalement pourrie à la base et où les dauphins se font exploiter d'une manière abominable. Et les dauphins, une des caractéristiques fortes qu'ils ont dans mon histoire, c'est que la manière dont sont organisées leurs zones corticales et donc tout ce qui conditionne leur perception de l'environnement, ils ont assez peu de connexion entre leurs différentes zones corticales qui sont extrêmement efficaces chacune dans leur domaine. Donc, en général, les dauphins, dans mon monde, n'ont pas la capacité de mentir ou de percevoir le mensonge conscient. Et il se trouve qu'Elsa bénéficie de quelques améliorations supplémentaires qui font qu'elle peut comprendre quand il y a des anomalies dans ce qu'on lui raconte. Donc, l'enjeu dramatique naît de là. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais comme réponse, mais je peux,
ce que je voulais,
je peux en dire beaucoup plus.
on va sans doute rebondir sur ces différentes approches d'une intelligence terrestre non humaine. Jeanne, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton cachalot ?
Alors, dans La vieille anglaise et le continent, je raconte l'histoire d'une très vieille dame, très désagréable, voire une vraie garce, quoi, qui est en train de mourir et dont on transfère l'esprit dans le corps d'un cachalot mâle afin qu'elle remplisse une mission qu'on va appeler écologique. En gros, ils vont répandre un virus dans la mer, un virus qui va attaquer les autres grands cétacés, qui ne va pas les tuer, mais qui va les rendre, lorsque... La maladie aura suivi son cours et qu'ils auront guéri naturellement, qui va laisser dans leur organisme des traces qui les rendront définitivement impropres à la consommation humaine. Voilà, alors c'est un but qui paraît noble a priori, sauf que c'est un peu délirant. On lâche quand même dans l'océan un truc dont on a une vague idée de ce que ça va donner à 5-6 générations. Après, on ne sait pas. Mais ils sont pleins d'illusions et pleins de désirs de bien faire, mes écolos, donc ils font ça. Bon, ça c'est l'idée. Le truc qui m'a intéressé, moi, c'était comment est-ce qu'on fait pour apprivoiser un corps, d'abord, qui n'est pas le sien, avec des réflexes qui ne sont pas les siens appris à la naissance. Et c'est comme ça que ma vieille anglaise désagréable devient... vraiment un cachalot en habitant ce corps qui lui impose des habitus, des modes de communication sur lesquels je vais revenir après, totalement différents de ceux dont elle a l'habitude. Et à la fin des fins, la transformation en cachalot va faire d'elle non pas un meilleur humain, mais une meilleure personne. Voilà, c'était ça mon idée. Alors maintenant, je ne sais pas comment les cachalots pensent. Donc j'ai fait un peu comme les Silusiques que je n'avais pas lues à l'époque. Je le regrette bien. Parce qu'il y a des bêtises que je n'aurais pas faites. J'ai regardé la vie des autres cachalots parce que la vieille anglaise va être adoptée par un autre cachalot mâle beaucoup plus grand qui se rend compte qu'elle est vraiment franchement nulle en cachalot et qui va lui apprendre la chasse, les plongeons, comment ne pas se noyer toute seule bêtement. Parce que c'est un apprentissage. Hein. On peut se noyer quand on est en cachalot si on ne remonte pas à temps. Tout ce que je sais des cachalots, c'est la façon dont Anne apprend à cesser de se planter et apprend à comprendre ce qui se passe. Par exemple, ne pas faire de bulles n'importe quand. Les cachalots, les grands cétacés, lorsqu'ils émettent des bulles, c'est un signe de menace ou d'agressivité. Donc voilà, j'avais ce genre de détails dont j'étais au courant. Mais du coup, ça conditionnait la communication entre Anne et son petit camarade, son gros camarade même plutôt. Toutes les plantages d'Anne, en fait, c'est les miens. Voilà. C'est comment est-ce que j'ai... je ne sais pas très bien comment exprimer ça. J'ai essayé de ne pas être anthropomorphique en permanence, et c'est très dur. C'est extrêmement difficile d'imaginer un mode de pensée qui ne soit pas tout à fait, on va dire, binaire, manichéen, dans un univers qui est en trois dimensions, en fait. Voilà, c'était ça. Il fallait l'imaginer. Comment est-ce qu'on pensait le monde quand on était, non pas les pieds dessus, mais au milieu? Comment est-ce qu'on pensait le temps quand on... n'avait pas toujours accès à l'alternance jour-nuit, à la solidité, etc. Lorsque l'espace est quasi infini, parce que l'espace des océans, il est infini d'une certaine façon, comment est-ce qu'on pense? Et je ne sais pas si j'ai répondu à ces questions que je me suis posées à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai essayé de faire semblant d'y répondre. Et apparemment, les gens y ont cru, donc j'ai dû mentir assez bien. Voilà.
Merci beaucoup à toutes les deux. Quand vous les écoutez comme ça parler de ces volontés, enfin de ces tentatives de communication avec deux approches complètement différentes, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, par rapport à votre spécialité qui est typiquement, par exemple, le dialogue homme-machine?
Bah, moi, personnellement, déjà, ça me donne envie de lire les nouvelles que je n'ai pas encore lues, je l'avoue. Moi, le problème de l'intelligence, je l'aborde avec le langage. Et du coup, là, je reste anthropomorphique puisque mon principe, c'est de partir du langage humain qui est extraordinairement efficace et d'essayer de voir si on ne peut pas utiliser ce langage humain pour communiquer. Alors, il y a eu des tentatives avec des animaux, on pourra en reparler un peu, et puis éventuellement avec des machines, puisqu'on en est à un point, on le voit dans toutes les tables rondes où on parle d'intelligence artificielle un peu partout, et une vraie intelligence artificielle, bah, c'est celle avec laquelle on peut parler. Si on ne peut pas lui parler, disons qu'on rate un peu quelque chose, quoi. Alors, avec les animaux, alors, je ne connais pas trop les expérimentations qui ont été faites avec des dauphins, avec des cachalots, je crois qu'il n'y en a pas trop eu. Mais c'est sûr qu'il y en a eu avec des grands singes, ça oui.
Ou Washoe, par exemple.
Voilà, Washoe et d'autres, Matata, etc. Que ce soit des gorilles, des chimpanzés, et des bonobos, il y a eu des expérimentations avec les trois espèces. Et au début, on pensait que ça serait possible de leur faire apprendre le langage humain, même dans une forme très, très simplifiée. Bon, en fait, ils ne peuvent pas articuler comme nous, donc à moins de leur mettre un appareillage, ce n'est pas possible. Donc, on est passé à une autre forme de langage qui est la langue des signes, hein, la langue utilisée par les sourds, puisque là, c'est d'une manière simplifiée un ensemble de gestes. Et là, ça a commencé à marcher. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, Washoe ou d'autres, en particulier, il y a une histoire avec une mère et son fils qui a assisté à l'apprentissage de la mère. La mère n'a rien pu apprendre, mais le fils, lui, a enregistré des signes et s'est mis à à faire des phrases avec des humains. Alors, c'est des choses genre moi manger, moi vouloir. Sortir, enfin voilà, ça reste, disons, des phrases extrêmement simples par rapport à celles qu'on est en train de faire nous en parlant ou à celles qu'on trouve dans les romans, quoi. Hein. C'est des phrases où il y a en gros sujet-verbe, éventuellement sujet-verbe-complément, et encore, c'est très dur. Et les plus intelligents sont arrivés à conceptualiser un petit peu, c'est-à-dire à pas dire moi vouloir banane, mais à arriver à dire moi vouloir fruit, donc à passer à un niveau d'abstraction supérieur. Mais au-delà de ça, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a pas des subordonnées relatives et des choses comme ça. Ça, et a priori, on n'arrivera jamais, quoi.
Est-ce qu'on a vraiment besoin de subordonnées relatives comme marque définitive de l'intelligence ?
Alors, peut-être
pas. C'est Chomsky, ça. Mais...
Alors, il y a l'enchâssement, oui. Parce que pendant très longtemps, ça a été... Le fait donc de faire, je sais pas, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, donc d'enchâsser une phrase dans une phrase, c'est le titre d'un roman de Watson qui est très connu. Ça a été la marque de la différence entre le langage humain et puis le langage qu'on arrive à avoir avec un animal. Un animal ne peut pas faire ça, un humain le fait tout le temps, à chaque phrase ou presque. Est-ce que c'est un signe d'intelligence ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un signe du fait qu'on arrive à maîtriser la langue de manière suffisamment étendue pour exprimer des choses qui ne sont pas immédiates. Plus que ça, ce qui est important, c'est d'arriver à maîtriser le temps, à dire quelque chose au passé ou au futur. Ça, nous, on en a besoin de faire ça. Et ça, les expériences qu'il y a eu avec les animaux ont montré qu'ils n'y arrivaient pas du tout.
La maîtrise de l'anticipation, tous les humains n'y arrivent pas.
Merci de cette précision. Je voulais revenir sur cette idée parce que là on est en train de parler du langage, mais chez Sylvie, dans les yeux d'Elsa et dans ce que tu nous dis, on a un langage humain qu'on essaye de transférer. À des animaux, là en l'occurrence terrestres, mais pourquoi pas autres. En tout cas, l'idée est de faire apprendre notre langue comme si la communication passait par notre langue. Et là, j'ai envie de te laisser la parole, Pascal, parce que tu me parlais des termites, des fourmilières. Et est-ce qu'on fonctionne de cette façon avec ce genre d'insectes ? A priori, pas.
Alors effectivement, moi pour ma part, je m'intéresse à des formes d'intelligence, à une forme d'intelligence qui est très éloignée de celle dont nous parlons, puisqu'il s'agit de communication entre des entités beaucoup plus simples, avec beaucoup moins de neurones que l'être humain ou que les animaux dont vous avez parlé, dont vous parlez dans vos romans. Et en particulier, je travaille depuis plus de 15 ans avec des biologistes, des entomologistes qui s'intéressent aux sociétés d'insectes. Et bon, on a tous observé, quand on était jeune ou moins jeune, des fourmis dans la nature. Et on a vu que collectivement, bien que ce soit des êtres relativement simples, eu égard aux êtres humains, elles arrivaient à faire des tâches qui nous fascinaient. En effet, les colonies de fourmis, de termites, de guêpes, sont capables de faire, de construire des nids d'une grande complexité, sont capables de rechercher des sources de nourriture avec une grande efficacité, sont même capables, en fait, de faire du partage de tâches, hein, par une forme de division du travail, et tout cela sans chef d'orchestre. Sans ingénieur en chef et par des formes d'interaction et des règles assez simples. Et ce qui fait fonctionner, disons, le collectif, c'est ce qu'on appelle, nous, enfin, voilà, l'intelligence en essaim. Hein, c'est vraiment les interactions entre ces entités simples qui font fonctionner ce collectif-là. Donc on est fort éloigné. Maintenant, en vous écoutant, je m'interrogeais sur la capacité des humains à dialoguer avec ces insectes. Alors je ne suis pas biologiste, donc je ne sais pas si des expériences ont été faites, mais je me disais que bon, elles communiquent, hein, l'élément par lequel les insectes communiquent entre eux, c'est très souvent des traces chimiques, hein, comme des phéromones qui sont laissées sur le sol et qui permettent, en fait, de guider les congénères à travers, à la fois pour des tâches de construction et puis par exemple pour des tâches de recherche de nourriture. Et donc peut-être, si nous déposions ces phéromones, mais qui d'après ce que j'ai pu apprendre de mes collègues biologistes, sont très difficiles à synthétiser et même à mesurer. On pourrait, envisager une forme de communication avec les insectes. Maintenant, pour transmettre quel message ? Enfin, ça pose des tas de questions délicates.
J'étais en train de me rappeler le roman, un roman de je ne sais plus qui. Alors là, par contre, Sylvie, tu dois savoir. La forêt d'Iscambe, où les humains sont plus ou moins... c'est plus ou moins un post-apo, mais la terre a repris ses droits. Enfin, la nature a repris ses droits. Il reste quelques humains à la surface. Et le héros rentre en contact avec une termitière qui est relativement bienveillante. Il a des problèmes de communication avec, mais il utilise en fait les phéromones, si je me rappelle bien, qu'elle laisse pour discuter avec.
Il faut qu'on retrouve le titre parce qu'il faut
absolument. C'est la forêt d'Iscambe.
Ah, d'accord.
Par contre, c'est l'auteur, je ne m'en souviens pas. Il n'y a pas un monomaniaque de SF qui dans la salle, non ? Bon, il n'y en a pas.
Je pourrais peut-être en profiter pour montrer quelques images de. Alors, j'ai commencé par. Je sais pas. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas des insectes, hein, mais c'est pour vous montrer d'autres formes d'intelligence, puisque aussi, là, les questions qu'on a aujourd'hui posent cette question-là. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Donc, effectivement, l'intelligence via le dialogue et la communication humaine ou entre des entités élaborées. Effectivement, ça c'est une caractéristique de l'intelligence, mais voilà d'autres formes d'intelligence, hein, des bancs de poissons, des vols en formation que vous avez certainement observé au moment des migrations, et puis voilà des insectes qui sont en train de s'entraider pour pouvoir effectuer des tâches, quelques déplacer des feuilles, etc., les découper. Et les termitières. Alors là, il n'y a pas d'homme à côté pour essayer de dialoguer avec sur ces photos-là. Mais on a essayé de regarder ce qui se passait à l'intérieur de ces termitières. Et on observe des structures extrêmement complexes. Hein, vous voyez des structures en étages avec une régularité incroyable. Et donc les insectes, en fait, n'ont pas la capacité cognitive. Ils ont entre 10 et, pour vous donner une idée, 10 000 et 100 000 neurones. Pour l'être humain, on dit qu'il y en a 100 milliards. Donc, ils n'ont pas la capacité cognitive d'avoir des plans préalables et de suivre ces plans-là. Donc, il n'y a pas d'architecte, comme je disais précédemment. Et malgré tout, ils arrivent à construire ce genre de structure. Et on a même mis en évidence assez récemment en fait, la présence d'escaliers en colimaçon à l'intérieur de ces structures qui permettent d'aller rapidement du haut en bas. Et on a étudié aussi les réseaux hein, de transport, comme dans les villes. Voilà comment y a des réseaux de transport entre les villes. Ici, les villes, ce sont les chambres à l'intérieur des termitières. Et on a regardé comment les chambres étaient reliées entre elles et comment les termites naviguaient à l'intérieur de leur nid. Et on a mis en évidence différentes propriétés pour dire qu'elles sont capables de pratiquer des tâches d'une grande complexité. En particulier, justement, y a une efficacité de communication à l'intérieur qui est tout à fait étonnante. Elles sont capables de naviguer très rapidement. Et d'autre part, elles peuvent également, ces termitières sont également conçues pour faire face aux envahisseurs. Alors, par exemple, dans les nids, il y a des grandes voies de communication, on pourrait penser aux autoroutes des termites, et puis se greffent sur ces voies des petits nœuds routiers qui joignent un ensemble de chambres et qui sont reliés à ces grandes voies par juste un tunnel. Et alors pourquoi un seul tunnel ? Eh bien parce que, enfin, d'après l'interprétation qu'en font mes collègues biologistes, parce que ça permet, en cas d'invasion, s'il y a un groupe de chambres qui est envahi, eh bien, les tunnels sont d'une épaisseur suffisamment petite, c'est-à-dire de la taille d'une ou deux termites, pour que les termites se mettent l'une sur l'autre et puissent bloquer le tunnel. Ce qui fait que eh bien, le reste du nid n'est pas envahi. Donc il y a des stratégies extrêmement élaborées.
Moi, ce que je trouve fascinant dans ce que tu viens de nous raconter, c'est si on repart 100 ans en arrière, les termites étaient juste des bestioles qu'il fallait détruire. enfin, je pense que c'est encore comme ça pour beaucoup de gens. En tout cas, je ne pense pas qu'on imaginait cette capacité des termites à construire de façon... Alors, je suis embêtée avec la notion d'intelligence, parce que la définir, c'est compliqué. Mais en tout cas, on n'avait pas conscience de tout ça. Et à partir de là, on peut commencer à transférer. Et là, j'ai envie d'interroger Sylvie par rapport à ça, parce que on pensait que les termites étaient intelligents, enfin étaient juste des sales bestioles dans lesquelles il fallait mettre un bon coup de bombe, quoi qu'elles résistent pas mal à ce genre de choses. Et puis finalement, on se retrouve face à des choses extrêmement organisées, structurées, avec de la communication. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres communications qu'on pourrait rater? Et là, je pense à l'amour de sable.
Oui, et moi j'étais frappée en écoutant Pascal, parce que c'est vrai que quand on prend la termite toute seule, c'est pas grand-chose de plus qu'une sale bestiole qu'on a envie d'écraser. Et de toute façon, personne ne se fait la moindre illusion sur le dialogue intéressant qu'on pourrait avoir avec une termite. Elle n'en a pas les capacités. Par contre, la colonie, la termitière, est probablement une créature beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante à étudier en tant que collectif, en tant qu'essaim. Mais le problème, c'est qu'on a quand même une énorme faiblesse, nous les humains, c'est qu'on a une vision tellement anthropomorphique du monde qu'on a beaucoup de difficultés à imaginer à prendre conscience du fait qu'il y a un être intéressant en face de nous quand il ne nous ressemble pas du tout. Et je suis frappée par tout le vocabulaire qu'on emploie pour désigner les choses est toujours extrêmement significatif de la représentation qu'on en a. Et quand on parle de colonies, de fourmis, de termites, d'abeilles, on dit toujours qu'il y a une reine. Et moi, ça me fascine qu'on dise qu'il y a une reine. Parce qu'il y a une reproductrice. Mais quand on dit reine, on a une vision d'un système monarchique où un des êtres à l'intérieur de la colonie a le pouvoir. Et du coup, on a tout un tas de représentations selon lesquelles on a affaire à un collectif, mais... on a un interlocuteur tout désigné, c'est la reine. Et il y a plein de films qui, d'ailleurs, sont centrés sur l'idée qu'en gros, si on arrive à bousiller la reine, si on arrive à établir un contact, ce sera avec la reine. Ouf, ça y est, on a un interlocuteur qui, quelque part, est à notre image. Il faudrait pouvoir prendre le problème autrement. Quand on est auteur de SF, on peut essayer de prendre le problème autrement. C'est un peu plus facile que quand on ne fait que des expériences de pensée. Moi, j'ai joué à ça avec une créature fondamentalement non humaine, mais qui est un gros tas de sable, et qui est intelligent, je vous le garantis, parce qu'on voit les choses de son point de vue à lui à certains moments dans l'histoire. Il est intelligent, mais il a une forme d'intelligence qui est complètement différente de celle de l'être humain. Et lui, il a conscience de la rencontre avec l'être humain. Il la perçoit sur des principes différents. Il n'a pas des yeux, il n'a pas des bras, il n'a pas des oreilles. J'ai été obligée de le faire penser en mots et en phrases parce que je ne pouvais pas écrire quoi que ce soit sinon. Mais au-delà, la perception et la compréhension qu'il a de ce qui l'entoure n'est pas basée du tout sur les mêmes éléments que nous. Dans l'histoire, et je crois que malheureusement on pourrait bien en être là dans la réalité, les humains n'ont absolument pas conscience d'avoir affaire à un être intelligent. Il ne leur ressemble pas assez pour ça. Et quand on pose en préalable le fait qu'on va établir une communication lorsque la créature qui est en face sera capable de parler comme nous, ça fait un sacré présupposé. Et je pense que c'est très rassurant pour nous parce que, quelque part, si elle est capable de parler avec nous, on imagine qu'elle est capable, qu'elle pense comme nous. Ça aussi, moi, j'adore interroger cette idée-là, c'est-à-dire que dans l'opéra de Chaya, par exemple, il y a des créatures évolutives qui ont besoin de rencontres avec d'autres races extraterrestres. Donc, en l'occurrence, c'est nous, les humains, qui sommes les extraterrestres, parmi d'autres. Et ils parlent comme nous, ils en sont capables. Mais ils ont une biologie différente. Donc, évidemment, mais ça, les humains ne s'en rendent pas bien compte et il y a des tas de choses qui leur échappent, en tout cas... L'humaine dans mon histoire est loin de comprendre tout ce qui se passe. Leur biologie étant différente, fondamentalement, ils ne peuvent pas penser pareil. Donc là, je ne peux pas en dire grand-chose parce que sinon je vais spoiler.
moi, j'avais envie de te poser une question. Alors, tu me diras si je me plante. Hein. Voilà. J'avais le sentiment que pour toi, donc, autant dans Chaya que dans L'amour de sable, c'est pas tellement la communication ton problème, mais l'échange. Et la façon de concevoir l'échange. Les humains dans Sable, ils ne conçoivent rien du tout. Mais Sable, lui, il est dans l'échange.
Sable est très heureux de l'échange et de l'interaction. Son but dans la vie, c'est de rencontrer des gens et de communiquer avec eux. Voilà, et d'échanger de l'information avec eux. Donc, Sable est comblé par la rencontre qui s'est produite.
Voilà, c'est hey, « il y a des copains, chouette
!» Chic, une nouvelle personne avec qui discuter et se comporter de manière civilisée, selon la vision qu'il en a, lui. Parce que Sable est une créature qui interagit avec ses congénères, qui chacun est un tas de sable, évidemment.
Et ce qui est fascinant, là, justement, c'est que tu es avec des personnages qui sont fondamentalement avec des intentions, on va dire, bénévolantes en soi. Alors, ça plante, mais...
Bon, pardon. La suite... La suite dans l'opéra de Chaya.
C'est pas bon. Je suis vraiment désolée.
Est-ce que ça vous inspire des réactions ?
Ah oui, tout à fait. Alors, plusieurs. Bon, d'abord, j'aime beaucoup cette métaphore de cette créature de grains de sable, hein, parce que, alors, évidemment, ça me fait penser à ces notions d'interaction sur lesquelles qui m'intéressent d'un point de vue scientifique, là. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si vous êtes au courant des travaux de Stéphane Douady, le physicien qui travaille sur les mélodies qui sont produites par les frictions entre les grains de sable. Et donc, il a même fait des enregistrements. Et il a beaucoup travaillé sur les dunes et il a enregistré en fait le son des dunes et selon les endroits du monde et les constituants de ces grains de sable, eh bien les musiques, hein, les sons produits sont différents et c'est des sons qui ont fasciné les gens du désert parce que bon il leur accordait tout un tas de pouvoirs magiques. Et maintenant, il est capable de les reproduire dans son laboratoire. Donc ça fait un lien aussi à ça. On arrive à comprendre ce qui se passe. Et je me permets de rebondir aussi sur une des premières remarques que vous avez faites, c'est-à-dire dans la vision que l'on a des fourmilières, enfin de ces essaims, d'une façon générale, la vision très hiérarchique de la société, c'est-à-dire avec la reine. Finalement, la reine... elle fait essentiellement son enfin là à nouveau
c'est une pondeuse.
Et ben voilà, c'est ça.
Sa fonction générale,
sa fonction principale, c'est de pondre les œufs. Et là je montre d'autres images que je n'avais pas commentées tout à l'heure, hein, donc des images de nids de guêpes que m'ont prêté mes collègues du centre de recherche de la cognition animale de Toulouse. Et donc là, on est capable maintenant de simuler, hein, moi j'ai travaillé avec eux là-dessus, sur la simulation de ces nids, sans aucun pouvoir central, c'est-à-dire uniquement avec des règles locales, très simples, et c'est à partir de ces règles émerge, hein, le terme important, là c'est l'émergence de comportements collectifs. Donc ça... ça repose des questions aussi sur une société justement sans pouvoir central et qui avec des capacités décentralisées permet de malgré tout d'accomplir des tâches extrêmement sophistiquées.
Mais avec lesquelles on n'est pas sûr de pouvoir dialoguer, en tout cas probablement pas avec le langage.
C'est sûr, moi je reste du côté de la communication de face à face, donc avec un interlocuteur unique, quoi, mais là j'aurais aucune idée de la façon de communiquer avec une entité comme ça c'est clair.
Alors si maintenant dans l'avenir là, ce qu'on a pour ambition, c'est de pouvoir établi. Alors, je ne sais pas, on ne parle pas tellement de communication, c'est plutôt de compréhension de ces sociétés, c'est-à-dire de pouvoir introduire des petits robots, des mini-robots, ce qui était difficile il y a encore quelques années, parce que les robots que l'on souhaite, enfin, moi je ne travaille pas précisément là-dessus, mais que les collègues roboticiens voulaient programmer étaient encore un peu trop gros à l'échelle de ces insectes. Maintenant, on commence à faire des robots suffisamment miniatures pour pouvoir les introduire dans les colonies. Alors, je ne crois pas que dans leur esprit, il y ait, mais je pourrais leur suggérer suite l'idée de, d'établir une communication, mais là vous me donnez plein d'idées d'expériences à faire. En tout cas, l'idée c'est bien d'introduire des caméras ou des marqueurs, des capteurs qui permettent de mieux comprendre de l'intérieur la dynamique de la société. Voilà.
Est-ce que la science-fiction peut apporter à la science ?
Ben, en tout cas, oui, là, c'est, quand on fait de la science, on a besoin d'imagination. Enfin, c'est, voilà, on part d'un certain nombre de concepts, mais bon, on essaye aussi de trouver des nouvelles solutions pour des problèmes. Pourquoi je me suis intéressée à ces bestioles au départ, hein, c'est en tant qu'ingénieur, en fait. C'est-à-dire pour essayer de trouver des nouveaux algorithmes pour des problèmes qu'on ne savait pas bien résoudre. Et donc on s'inspire, là on cherche des sources d'inspiration qui peuvent être très différentes et qui peuvent provenir de la physique ou bien de systèmes biologiques pour pouvoir mettre au point des algorithmes avec des propriétés particulières. Et donc effectivement, tout cela, ça demande une grande ouverture d'esprit, je crois, et beaucoup d'imagination. Et donc, voilà, ne serait-ce qu'à travers une table ronde comme aujourd'hui, je repars avec plein d'idées que je vais soumettre à mes collaborateurs.
Moi, je confirme également. Hein, c'est en regardant des films comme Hal, qui tue les membres de l'équipage du vaisseau spatial, etc. Voilà. En regardant des films où on voit comme ça des contacts entre des humains qui arrivent sur un univers et qui parlent avec des aliens, que ça donne des idées sur mais qu'est-ce que la communication, mais qu'est-ce que le langage, et tiens, j'ai envie de m'intéresser à ça et je vais regarder un peu ce qui se fait au niveau de la recherche. Et moi, c'est ça qui me donne envie de travailler, quoi, hein, au jour le jour. Donc moi, c'était plus les films des années 70 et de ça qui m'ont bien marqué. Et donc, comme on voit essentiellement la communication de face à face, c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Mais je pense que les gens, à l'heure actuelle, en lisant l'opéra de Chaya, Les yeux d'Elsa et tout ça, auront peut-être des nouvelles, des idées de voies de recherche à regarder.
Et moi, je trouve qu'on est en train, on aurait pu faire une connexion entre cette table ronde et d'autres qu'il y a eu précédemment, où on s'interrogeait sur la naissance d'une conscience artificielle. Et je trouve qu'on est en train de l'aborder d'une certaine manière en se posant la question de... On n'a pas posé une question qui me paraît fondamentale, c'est est-ce qu'on fait le pari que ces collectifs, ces essaims, ont une forme de conscience d'eux-mêmes ? Si oui, alors peut-être qu'il y a un interlocuteur, un partenariat, un échange, peut-être pas une communication verbale, mais au moins un échange. Si on arrivait déjà à entrevoir dans quelles conditions ça peut émerger, j'écoutais Pascal dire il y a une somme de comportements assez simples à la base, mais qui s'organisent sans qu'on soit dans un système hiérarchique. Donc, qui s'organise à la base. Moi, je suis informaticienne à la base. Je sais ce que sont des systèmes multi-agents ou ce genre de trucs. On est tout à fait dans la même configuration. On n'a peut-être pas la même masse critique du côté de l'IA. On n'a pas la masse critique de neurones. On se dit que c'est peut-être une question de seuil. Mais du côté des systèmes multi-agents, c'est un peu la même question. Est-ce que c'est juste un seuil quantitatif qui fait qu'à un moment donné, il y a prise de conscience au niveau collectif, ou est-ce que les termitières n'ont aucune conscience d'être une colonie de termites ? Quand est-ce qu'il y a conscience ? Où est-ce qu'elle émerge ? Et ce n'est pas tout à fait du collectif, mais moi, je profite de l'occasion parce qu'on n'en a jamais discuté ensemble. J'ai toujours eu envie de demander à Jeanne quelle conscience d'elle-même avait le cachalot dans lequel va s'incarner la vieille anglaise, avant que la vieille anglaise ne se soit investie dans ce cachalot. Quelle représentation tu avais ? Est-ce qu'il s'est éveillé à la vie le jour où elle s'est incarnée en lui ? On a l'impression qu'il émerge de nulle part. Il y a des traces de sa personnalité antérieure, mais pas seulement des traces biologiques. Il y a une empreinte identitaire qui me paraît présente. Et tu arrives à travailler sur la manière dont se combine cette empreinte identitaire avec la personnalité de cette vieille femme très riche, qui a un goût du pouvoir absolu, qui a une personnalité très forte, ça se combine sans qu'on sache ce qu'il y avait avant. J'aimerais savoir ce que tu as dans la tête à propos de ce qu'était avant la rencontre, cette créature.
Alors, il faut savoir que Anne investit un cachalot qui est déjà mort. Hein, il est en état de mort clinique, puisque c'est quand même des écolos qui font ça, donc ils ne vont pas buter un cachalot pour introduire une vieille dame dedans, non. Donc, ils ont quand même une forme de logique, même si ils sont dans un truc où vraiment ils sont tellement persuadés d'avoir raison que rien ne va les arrêter. Ils sont comme la vieille anglaise, ils sont aussi démesurés de pouvoir qu'elle. Ce qu'il y a, c'est qu'on va le retrouver à un moment dans l'histoire, le cachalot mort. À la fin, enfin, à la presque fin de l'histoire, le compagnon d'Anne va l'amener dans une conscience collective cétacé, le continent cétacé, où elle va rencontrer, en plongeant à l'intérieur de la conscience collective maritime, le cachalot qu'elle a... quelque part un peu vampirisé, pas trop parce qu'il était quand même un peu mort. Hein, et on sent une énorme bienveillance et beaucoup d'humour. Et pour moi, les cétacés, c'est forcément des bestiaux qui se marrent. Et c'est même pas un jeu de mots à la con. C'est, pour avoir vu les dauphins jouir par tous les pores de leur peau lisse, Quand je les ai vus dans la mer Rouge, c'est des bêtes qui forcément ils ont le sens de l'humour.
Et c'est une joie de vivre apparente.
Voilà,
l'humour c'est peut-être plus dans le décalage.
Je sais pas, j'arrive pas à imaginer la joie sans le rire. Mais ça c'est moi. Hein. Là, dans ce cas-là, je suis très anthropomorphique. Donc si le cachalot qu'a investi Anne était quelque chose, c'était quelque chose de... Il est tendre et rigolard. Voilà.
Je crois que le rire, oui, les animaux rient, mais avoir le sens de l'humour, c'est encore autre chose, en fait. Ça demande un niveau d'abstraction. Je crois que c'est séparé, en fait.
Ça m'est totalement égal. Il y a un moment où j'assume totalement l'anthropomorphisme, si tu veux. J'ai beaucoup de mal déjà à me mettre à la place de mes frères et sœurs humains. Alors, si en plus ils sont velus ou avec des peaux, avec des écailles, même si j'ai tendance à considérer qu'ils font partie de mon espèce, parce que pour moi, je suis un animal, pas spécial, un animal spécial, pas tellement spécial. Ça ne me gêne pas de leur plaquer mes comportements, moins ça je comprends vaguement.
Le temps a passé très très vite parce qu'il est déjà midi moins 10 quasiment, et je me proposais de laisser un peu la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions qui ont surgi, des choses que vous auxquelles vous rêveriez d'avoir des réponses? Et puis voilà, il y a déjà une main qui se lève là-bas. C'est le moment. Est-ce que ça va être jouable? On va laisser passer le micro parce que c'est un peu délicat. Vous êtes très nombreux. Merci à vous.
Tout d'abord, une remarque de terminologie. On dit intermite. Et pas une termite.
Ça, c'est moi, oui.
C'est comme les tentacules, c'est une erreur courante.
Les tentacules, c'est toujours très important. Il ne faut jamais louper les tentacules.
Les termites avec des tentacules, c'est super.
Cela dit, ça serait génial. Cela dit, il y a un truc auquel j'ai pensé à un moment où on discutait sur les autres intelligences. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant d'investir comme animal, ça serait un calamar. Parce qu'ils sont vraiment très intelligents, eux, il paraît. On m'a dit.
Il y a Stephen Baxter, je crois, qui a écrit un roman où il y a un calamar.
Oui, mais là, je voudrais en faire un qui a le sens du mot.
Et ensuite, j'avais une remarque à sortir d'une question.
Ah, pardon.
Couramment, on est confronté à ce qu'on appelle maintenant des animaux domestiques. On peut constater, en les observant, que des félins, des canidés, des oiseaux, vont avoir des façons de communiquer entre eux de même espèce et parfois interagir avec d'autres espèces et sans faire d'école de chien ou de chat. En Angleterre, en Allemagne, Italie, on va constater des comportements similaires. On parlait tout à l'heure d'intelligence collective à une espèce. Je crois que toutes les guêpes d'une même variété vont construire leur nid d'une certaine façon. Est-ce que l'être humain, lui aussi, a une conscience collective en tant qu'espèce animale? Merci de répondre à la question.
Moi, je dirais de répondre juste, ou d'essayer.
Il serait grand temps qu'elle émerge si on veut que l'humanité ait un avenir. Et je crois que c'est vraiment ce qui nous manque à l'heure actuelle. C'est pour ça que je posais la question de est-ce que les scientifiques qui travaillent sur ces colonies d'insectes ont une idée du moment et des circonstances dans lesquelles ça émerge? Est-ce qu'il y a un seuil quantitatif? Est-ce qu'il y a autre chose?
Alors, à nouveau, je ne suis pas biologiste, donc c'est délicat pour moi de répondre à cette question, mais je pense pouvoir dire que, en tout cas, au niveau, là, on manipule deux échelles. Il y a l'échelle individuelle et l'échelle collective. Hein. Et au niveau du collectif, le seul objectif, enfin, ou l'objectif majeur, c'est la survie de la colonie. C'est la survie et la reproduction.
C'est notre problème aussi.
Oui, bien sûr. Faut-il une conscience? Là, ça, je repose la question dans un autre cadre. Hein. A-t-on besoin d'une conscience pour assurer la survie? Bon, c'est une question qui, à mon avis, est largement ouverte. Là, je ne prends pas de risque en disant cela.
Bonjour. C'est une remarque, en fait, c'est que vous disiez que...
Vous êtes où? On ne vous voit pas du tout. Merci.
En fait, que c'était des questions qui étaient assez récentes, assez modernes, enfin, en ce qui concernait les insectes sociaux. Mais les anciens avaient déjà remarqué que les abeilles... donner l'exemple en fait d'un modèle de vie, parce que par exemple les dieux, enfin les Grecs disaient que les abeilles avaient été données par les dieux, enfin voilà, pour leur donner un exemple de civilisation, de société justement qui pouvait se gérer de façon collective et avec une autonomie de chaque individu, quoi. C'est-à-dire que chaque individu étant autonome, voilà, il pouvait. Et les Juifs aussi, dans l'Ancien Testament, par exemple, les abeilles, bon, ils les appelaient, je ne sais plus enfin, quel nom, mais la racine étymologique, c'était Dabar, qui a donné le prénom Déborah, et Dabar, c'est le verbe, la parole. Donc en fait, eux, ils considéraient que la vie aussi, la nature, pouvait leur enseigner quelque chose, leur communiquer quelque chose, ce qui amène une question philosophique, en fait, aussi, c'est pourquoi la vie nous rend intelligents. Peut-être que vous pouvez répondre.
De dire ça à 5 minutes de la fin de la table ronde. En 140 caractères, absolument.
Une question devant, peut-être.
Excusez-moi, je suis là.
Ah, le micro est au fond.
Oui.
Ah, pardon. On vous a vu, on essaiera de...
Je vais vous sauver de cette question. Peut-être qu'après, vous pourriez revenir. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit en parlant de conscience collective. Par rapport à l'exemple des termites, par exemple, vous citiez le fait que des mesures d'urgence sont prévues par les termites, mais elles impliquent aussi un sacrifice d'une partie des termites pour sauver la colonie entière. Et est-ce que ce n'est pas ça qui manque aux humains pour avoir une conscience collective, justement?
Elle n'est pas mieux que la précédente, hein, pour traiter en 3 minutes.
Je vais quand même dire une chose, c'est que côté sacrifice des autres, on sait faire. Hein.
En tout cas, je confirme que dans certaines colonies, il y a effectivement des... Alors, est-ce que, vu au niveau de l'individu, c'est vu comme du sacrifice? En tout cas, il y a effectivement des individus qui disparaissent, qui meurent au profit de la survie du collectif.
Je suis désolé, mais il y a des terroristes qui savent se sacrifier. Hein. Alors après, est-ce que c'est une conscience collective là?
Ma remarque porte sur... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idéalisation des intelligences collectives au niveau des termitières, au niveau des ruches, etc. Il y a quand même une différence fondamentale, j'ai l'impression, c'est que dans une ruche, l'abeille n'a pas le choix, en fait. Elle va suivre un stimuli qui va générer un comportement. J'ai pas l'impression qu'il y ait un choix à faire dans répondre ou pas à ce stimuli, alors que dans une société humaine, nous sommes autonomes individuellement, et faire émerger une conscience collective quand le choix individuel est aussi important, ça me semble faire un parallèle entre deux choses qui sont complètement différentes en termes de fonctionnement, en fait.
En tout cas, je vais laisser les auteurs parler, mais moi, je fais très, très attention. Je n'établis jamais ce parallèle-là. Voilà. Nous, voilà. Après, on conçoit des programmes qui sont pour résoudre des problèmes bien précis d'informatique, mais je n'établirai pas ce parallèle, ça, c'est clair.
Et sinon, il est clair que chaque individu dans la collectivité a une petite marge de manœuvre, une petite marge de libre arbitre, qui est à la hauteur de l'intelligence dont elle dispose, apparemment. Mais quand on regarde une fourmilière, même si il y a des pistes que les fourmis suivent sur, avec leurs antennes, des chemins olfactifs, des phéromones, etc., on voit bien que de temps en temps, elles font un petit détour à droite, à gauche, un petit tour. Elles ont une marge de manœuvre. Si elles ont une conscience d'elles-mêmes, elles ont probablement la sensation d'avoir une certaine liberté, même s'il y a une pulsion très forte qui leur donne un objectif qui va dans le sens de l'intérêt collectif, il doit leur en rester suffisamment pour qu'il y ait la notion d'individu qui a un sens quelque part. C'est difficile d'aller plus loin.
Alors, peut-être que j'introduirai un concept. Alors, en parler deux minutes avant la fin, c'est pareil, c'est difficile. Le concept du hasard. Là, en tout cas, on a des modèles, nous, qui reposent sur des probabilités. Donc, alors là, je fais un parallèle. Enfin, j'ose le parallèle. Il me semble, là, à titre non pas de scientifique, mais d'individu, de citoyenne, qu'on a une part de hasard aussi dans notre fonctionnement. Et en tout cas, nous, les modèles qu'on construit reposent sur des probabilités. Donc, le hasard est extrêmement présent.
Je vais rebondir sur ce que tu dis. J'ai pas tellement l'impression que l'éventail de choix que nous avons en tant qu'individu autonome et humain, soit si large que ça. J'ai l'impression souvent qu'on a l'illusion de tout pouvoir. D'ailleurs, il y a tout un discours sur réalité rêve, rêve haut, rêve fort. Mais au fond, ce qui va nous déterminer, c'est l'endroit où on est né, les gens qui nous ont élevés, les hasards qu'on a rencontrés. Nous sommes une espèce qui n'est pas si libre d'elle-même que ça. Voilà, je vais m'arrêter là après avoir bien plombé l'ambiance.
On peut vraiment les applaudir. J'espère que ça a été aussi passionnant pour vous que pour nous. Et puis, bonne continuation. Nous, on va abandonner la scène au successeur puisqu'il est...